Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Eh bien, nous y voilà, la rentrée est là, bien là. Il a fallu reprendre cette semaine le rythme endiablé de l'école. Le réveil qui sonne, les enfants à lever, le petit-déj à préparer, les cartables à vérifier et pan, la route de l'école. Mais bon, en même temps, la rentrée, c'est pas si mal. Moi, j'aime bien l'automne qui approche, les couleurs des arbres qui changent, et puis la nuit aussi qui commence à reprendre le pas sur la lumière. Moi, j'aime bien la nuit. C'est à ce moment-là que je ferme les yeux et que j'ouvre encore plus grand les oreilles pour écouter mes podcasts préférés. Justement, parlons podcast et hashtag 2050 le podcast, vous êtes nombreux à vous être demandé quelles étaient ces notes de musique qui accompagnaient le vœu de Rebecca Amselem dans l'épisode 31. Alors attention à l'accent qui n'est pas garanti, ce morceau de piano était joué par Daniel Barenboim et le morceau c'est La Danza de la Mozza Donosa de Alberto Renestera. Sans transition, épisode 32, on va parler économie. On en a déjà un peu parlé dans d'autres épisodes, je pense à Angélique Chassis, Jean-Louis Louvel ou Patrick Lepage. Cette fois-ci, mon invité, c'est Rudy Pignot-Malapert qui s'y colle. Et on va parler de trois lettres, E, S, S. Le futur commence ici et maintenant.
Salut Rudy.
Salut.
Merci de me recevoir sur ton balcon, en plein soleil, dans le 18e, à Paris, un endroit plutôt sympa. Au tout début, quand on a commencé à prendre contact pour faire cet épisode, tu m'as parlé d'un lieu, le Bar Commun, qui malheureusement est en travaux en ce moment.
Ouais.
Alors, tu peux me dire ce que c'est, comme ça, ça va nous amener doucement vers notre discussion.
Ouais, d'accord. Eh bien, en fait, c'est un bar qui se situe juste en bas de chez moi.
D'accord.
Je suis très content d'avoir emménagé ici il n'y a pas très longtemps et c'est un bar en fait qui ambitionne de faire un lieu commun, donc qui est inspiré des biens communs.
D'accord.
Je veux que ce soit un bien commun en fait, dire voilà les bars c'est pas forcément un lieu juste commercial
de consommation,
c'est aussi un lieu où les acteurs du quartier, enfin les gens du quartier peuvent se rencontrer, faire des activités ensemble, donc on a prévu de faire plein d'activités qui permettent de créer du lien social. Par exemple, on veut faire des scènes ouvertes, on veut faire des ateliers d'écriture avec les enfants du quartier, on veut faire permettre aux sans-papiers d'écrire leurs lettres, des choses comme ça. En fait, tout ce qui est participatif va permettre aux gens de vivre le bien commun dans le bar.
D'accord.
Voilà, donc c'est un bar là qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, qui a fait une campagne de crowdfunding, qui a trouvé un local et qui maintenant est en travaux. Mmh. On cherche aujourd'hui à définir le plan d'activité, donc on fait plein de réunions. Les serveurs seront les bénévoles.
D'accord.
C'est un bar bénévole, associatif.
Ouais. Non, là, j'avais posé la question, c'est un bar associatif.
C'est un bar associatif. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens, pour consommer, doivent adhérer.
Mmh.
Donc, au-delà de l'astuce du fait qu'il n'y a pas besoin de payer une licence, ça permet aux gens de vraiment aussi participer et dire bah tiens, peut-être que moi aussi je peux servir, etc. Donc, moi je vais encadrer.
Oui, c'est pas un bar où il y a des gens de passage, il y a vraiment une logique de fidélisation. On vient, on y revient parce qu'on.
On y revient
on
et puis.
Le vivre ensemble,
on veut pas aussi faire un truc bobo où en fait il y aura que des blancs à l'intérieur et. Il n'y aura pas de mixité avec les gens du quartier. Tout ce qu'on va faire sera fait pour que les gens du quartier participent et soient partie prenante du bar.
Mmh.
Donc c'est très intéressant.
Et alors, est-ce que justement pour implanter un lieu comme ça, c'est assez atypique, est-ce qu'il y a ici déjà dans le quartier un écosystème justement qui rend cette chose-là possible?
Alors le 18e arrondissement, c'est un arrondissement qui est assez fabuleux pour ça. Il y a aussi la coopérative La Louve, qui est une coopérative. Alors ça, c'est un autre exemple d'économie, enfin c'est un exemple d'économie sociale et solidaire au même titre que le bar commun. C'est une coopérative qui, de manière pragmatique, s'est dit sur le modèle d'une coopérative à Brooklyn, qui avait très très bien marché, de dire voilà, en fait, on a besoin de se réunir pour acheter des denrées qui sont très chères, parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens dans le quartier. Faisons une coopérative, comme ça on pourra acheter ensemble moins cher.
D'accord, soyons plus forts ensemble.
Soyons plus forts ensemble, et en plus, avec un système où on demande aux gens 3 heures de bénévolat par mois, pour leur dire, pour permettre en fait d'avoir une main d'œuvre gratuite, contre quoi les personnes ont accès à une nourriture moins chère. Mmh. Alors en plus à Brooklyn, ça a tellement bien marché, il y a eu tellement de bénévoles qu'ils ont ouvert des services annexes, donc comme des garderies d'enfants, ils ont permis aux gens, aux personnes âgées de se faire porter leurs courses, etc. Mmh. Et donc si ça explose comme ça dans le 18e, ce serait formidable. Donc là, c'est un exemple, mais dans le 18e, il y en a d'autres exemples. Il y a la maison zéro déchet qui vient de s'ouvrir.
D'accord. Mmh.
Et la maison zéro déchet, c'est un endroit où on apprend à ne plus produire de déchets.
D'accord. Donc c'est vrai, c'est Bea Johnson, hein, c'est ça qui a été un peu le fer de lance de ce mouvement-là. Et on voit que partout, c'est en train de d'éclore.
Et il y a c'est l'association Zero Waste France qui s'est implantée là-bas. Il y a d'autres entreprises sociales, il y a Carton Plein qui récupère des cartons dans les supermarchés, qui permet de faire des déménagements par des travailleurs en insertion. Ouais. Il y a plein de petits exemples comme ça dans le 18e arrondissement. Il y a des recycleries, des ressourceries. Et d'ailleurs, ce qu'on a prévu de faire sur le 18e, c'est de voir comment, avec la mairie, on peut réunir ces acteurs-là pour faire en sorte que référencer les besoins sociaux qui existent sur le 18e arrondissement. Donc, il y a beaucoup de prostitution, il y a des personnes qui n'ont pas accès à la culture, il y a d'autres personnes qui sont pauvres, en fait, tout simplement, en précarité, et de voir quels sont les acteurs qui sont là en présence et qui pourraient répondre à ces besoins sociaux-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a besoin d'autres, tout ça. Et ça, on a prévu de faire ça avec la mairie du 18e en méthodologie design thinking, donc faire émerger en fait les besoins des acteurs et y répondre en faisant aussi émerger des solutions qui répondent à ces besoins-là.
D'accord. Donc, tu l'as dit, économie sociale et solidaire, ça va être le cœur de notre conversation pour cet épisode du podcast. Pourquoi tu en es venu à t'intéresser à l'ESS? On va parler d'ESS, d'économie sociale et solidaire. C'est ta formation professionnelle? C'est un intérêt ou une implication associative que tu as depuis longtemps?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur, à mon avis, de filiation, parce que mes parents sont, mon père est militant. Communisme, c'est une autre époque, la Révolution, etc. Et ma mère est directrice d'une école maternelle, justement dans le 18e arrondissement.
Donc, c'est pour elle. Oui, là, tu es vraiment dans ton terreau.
Ah, je suis chez moi. C'est le cas de le dire, on est sur ma terre.
Ouais,
et en fait, pour elle, pour ma mère, par exemple, le fait de permettre à des personnes d'avoir accès à l'éducation, mais en permettant, c'est un engagement politique pour elle très concret. Elle a redressé des écoles comme ça et les parents se sont mobilisés pour elle, donc elle a eu la médaille d'honneur, du mérite, etc. Donc, je suis très fier de ma mère. Et puis mon père qui lui croyait beaucoup en la révolution, et aujourd'hui je trouve que dans l'économie sociale et solidaire il y a un peu de tout ça, c'est une espèce de révolution douce qui est en train de se faire. Avec des engagements politiques avec un grand P, mais concrets. Donc on fait de la politique en faisant l'union sociale, en essayant de consommer responsable.
On s'occupe des choses de la cité, on revient au sens premier
de la cité. Mais la cité qui va dans le bon sens, enfin, c'est des choses très logiques, on en parlera peut-être après. Moi j'ai fait des études très diverses, je fais du cinéma, de l'informatique, de l'école de commerce, et puis après j'ai fait de la socio. Et là, rédemption, quand je suis allé à l'Institut catholique de Paris, à la faculté des sciences sociales et économiques, avait un master économie sociale et solidaire. Mmh. Et j'ai flashé. Et puis j'ai été dans une association qui s'appelle le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui fédère et représente les entrepreneurs sociaux. Donc c'est des entrepreneurs qui cherchent à répondre à des besoins sociaux avant de faire du profit. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis j'étais responsable de la communication là-bas. Et puis j'ai fait plusieurs associations, puis j'ai terminé au labo de l'ESS, un think tank de l'économie sociale et solidaire, où j'ai fait de la communication. Et aujourd'hui, je suis consultant indépendant dans l'économie sociale et solidaire. Et on lance une petite marque de communication qui s'appelle Seb et Rudy pour
permettre... Avec Seb d'ailleurs qui est tout discrètement sur le canapé, on ne le voit pas, et il nous a dit qu'il ne ferait pas de bruit.
Sébastien ne fait pas trop de bruit, il est posé dans le canapé et il travaille en fait, on travaille de la maison. Il fait coucou là. On travaille de sa maison, de ma maison, et puis dans les espaces, les cafés, etc. Et chez les clients aussi, clients partenaires, on est dans cette logique-là. Et je travaille aussi pour une coopérative méditerranéenne qui développe l'économie sociale et solidaire en Méditerranée.
Donc Grande Méditerranée,
Méditerranée. Pour développer l'économie sociale et solidaire là-bas. Et toujours dans cette logique, dont je te parlais tout à l'heure, pour reboucler là-dessus, dire que en fait, après le printemps arabe, l'économie sociale et solidaire, c'est un peu une révolution concrète et douce qui va permettre de vraiment amener de la démocratie, du lien social, en tout cas, voilà, on l'espère, dans ces pays-là qui en ont vraiment besoin.
Ouais. Et c'est vrai, en plus, je pense que l'ESS à l'européenne ou à la française ou à l'occidentale a beaucoup à apprendre des pays, alors là, c'est le nord de l'Afrique et de l'Afrique en général, parce que tout le secteur de l'économie informelle qui est pour certains pays majoritaire, on retrouve de ses ressorts d'une économie communautaire, on fait ensemble, etc.
Donc je pense qu'il y a des dans les pays d'Afrique, il y a en fait l'économie sociale et solidaire, elle ne porte pas du tout ce nom-là, elle n'existe pas vraiment, mais elle existe dans les pratiques. Par exemple, les tontines, c'est une manière d'être plus fort ensemble en mettant de l'argent en commun. Et puis quand on lit les livres de Pierre Rabhi, on voit bien que, avant, les choses étaient beaucoup plus logiques et proches des besoins des gens, du territoire, et que l'industrialisation, la colonisation, etc., a amené des choses qui ont détruit petit à petit ces choses-là. Et pareil dans notre pays, c'est-à-dire qu'en fait, avant, quand on faisait des courses, on parlait avec des gens. Aujourd'hui, on ne parle plus avec des gens quand on fait des courses. Et puis, on nous vend ça comme du progrès. On nous vend un bouton, maintenant, il y a le bouton Amazon. On met Ariel sur sa machine à laver, on pousse le bouton et les produits arrivent tout seuls. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, tu peux acheter que du Ariel. Et puis, tu es sûr que en fait, tu ne parleras à personne. Et puis, tu achètes toujours la même chose et tu ne sais même pas d'où vient le produit. Enfin, c'est hallucinant. Ça. Donc, le progrès demain, ça sera de revenir à ces choses ancestrales.
D'accord. Alors avant justement de se projeter jusqu'en 2050, donc on a parlé d'ESS, tu as parlé d'initiatives ici dans le quartier, mais ailleurs également. L'ESS pour toi, il en est où aujourd'hui? Ça reste un truc de niche? Est-ce que c'est aussi un truc de bobo? Parce qu'il y a souvent des mélanges, savants mélanges entre, on va dire, économie collaborative, ESS, économie circulaire, bref. Peut-être que tu peux la définir, toi, telle que tu la sens, et puis le constat.
Bon, en fait, c'est très 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 large, l'économie sociale et solidaire, très complexe. On ne peut pas définir ça d'un trait comme ça. Et son histoire est assez complexe. Donc, dans l'économie sociale et solidaire, tu as différents mouvements. Tu as l'économie sociale d'une part et l'économie solidaire d'autre part. Et puis, avec le gouvernement Rocard et François Soulage, qui était membre, pas du gouvernement, mais d'une commission, ils ont réuni les deux termes, économie sociale et économie solidaire. Et en fait, l'économie sociale, elle se définit plus par les statuts, historiquement. Donc, ça va être tout ce qui est association, coopérative, etc. Ça veut dire que dans ces mouvances-là, on n'est pas là pour répondre forcément à un besoin social, l'insertion par l'activité économique, permettre aux pauvres de travailler, etc. On est là pour organiser en fait l'activité d'une manière qui va permettre de faire en sorte que chacun ait la même voix, par exemple dans l'association ou l'entreprise, qu'il y ait plus d'équité en fait entre les personnes et de démocratie. Ensuite, il y a l'économie solidaire qui vient là plus de tout ce qui est justement répondre à des besoins sociaux, se mobiliser comme Emmaüs, etc., pour les personnes en précarité. Donc l'abbé Pierre, c'est une grande figure de l'économie solidaire. Et là, en fait, tu vas avoir dans l'économie solidaire plus des principes qui seront davantage orientés vers « allez, soyons solidaires entre nous », donc plus de lien social, de réciprocité, etc. Faisons en sorte qu'il y ait un tissu qui soit dans le sens solidus, les liens solides entre les personnes, Donc par exemple, la coopérative La Louve dont je te parlais tout à l'heure, les gens ils vont pouvoir en fait être aussi bien acheteurs que participants à la coopérative. Et ça crée quelque chose de beaucoup plus fort que quand tu vas à Intermarché ou à Super U ou à Leclerc. Parce qu'en fait, tu arrives dans un supermarché où tu connais les gens, où tu sais où sont les produits parce que tu les as mis en place.
Tu sais d'où ils viennent.
Tu as participé au processus de décision, de dire voilà quel produit on va mettre où, etc. Et puis, donc tu n'es pas perdu dans un... Et donc, quand tu fais tes courses, tu te rends heureux.
Ouais.
Alors que quand tu fais tes courses à Intermarché...
C'est la pire activité de ma vie, faire les courses.
C'est la pire activité de notre vie, malheureusement. Et en plus, on nous dit, mais gagner du temps, ne passer plus par la caisse, etc. Donc déjà que la caissière, on ne lui parle pas, mais alors là, maintenant, on ne va plus lui parler. C'est simple, en fait, quand tu sors de chez toi et que tu fais les courses, tu parles à personne, tu vois personne, tu ne sais pas ce que tu achètes.
On est dépossédé de ce moment.
On est dépossédé.
La consommation, c'est nous aussi, quoi.
Bien sûr.
Tout ce qu'on utilise au quotidien.
Et du coup, je pense que ça rend pas heureux les gens et qu'ils sont, comme tu dis, en fait, dépossédés. Et je trouve que cette notion-là, ça fait partie des ressorts de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une transition citoyenne. Ça veut dire qu'on va permettre aux citoyens de se réapproprier les choses.
Et alors cette transition citoyenne, aujourd'hui pour toi, c'est une lame de fond ou ça reste un à côté heureux, joyeux, qui fait envie, mais un à côté toujours?
Alors, moi je pense que en fait, ça va être obligatoirement partie prenante de notre vie demain, sinon les gens vont il va y avoir des catastrophes sociales, quoi, de pire en pire, parce qu'il y a une précarisation des personnes et que en fait les gens perdent prise sur ce qui se passe dans le monde, aussi bien on l'a vu avec les élections, tu vois, les gens sont complètement à côté,
désabusés,
désintéressés, et que l'élection de Macron, c'est aussi bon, laissons le bénéfice du doute, on va voir, mais que soit il y a un gros ras-le-bol favorable à Marine Le Pen, soit il y a un désintérêt total. Et donc, pour ne pas verser dans les extrémismes, il va falloir qu'on organise en fait le fait de permettre aux personnes de se réapproprier les choses. Alors, c'est dans l'intérêt de personne, en fait. En tout cas, pas de ceux qui tiennent le monde.
Oui, c'est ça. Ouais.
Je pense que le fait que petit à petit, avec l'arrivée d'Internet, avec... la présence d'Internet, mais par les biais d'Internet, par le bouche à oreille et par en fait la nécessité. Nécessité fait loi, et donc en fait les gens vont se réapproprier et vouloir se réapproprier progressivement les choses. Et moi je le vois même quand je parle avec des gens qui ne sont pas du tout dans le système, ils entendent déjà des bribes comme le sans essence programmé, etc. Je suis très étonné des fois d'entendre des mots dans la bouche de gens que j'imaginais pas. Ouais. Et je vois dans les médias que ça a fait son chemin aussi. Et moi, quand j'ai commencé en tant que responsable com au mouvement des entrepreneurs sociaux, quand je parlais de ça à des gens, ils me prenaient pour un extraterrestre. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a besoin. Et donc, la réappropriation des citoyens, c'est aussi par, alors, qu'est-ce que je consomme? Comment je produis? Où est-ce que je place mon argent? Est-ce que je peux produire ma propre électricité? Est-ce que je peux participer dans un bar comme le bar commun? Il y a aussi le social bar à Gare de Lyon qui est un laboratoire de convivialité comme ça qui permet aux gens de se parler tout simplement, quoi. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours été assez alarmé par le fait que dans une ville, les gens disent ouais, j'ai acheté un appart, c'est super cool. Ah bon, pourquoi? Parce que mon quartier, il y a plein de commerces. Ah bon, d'accord. Et en fait, je me rends compte petit à petit que les gens recherchent autre chose aussi, et une expérience de vie en fait. Et qu'il faut arrêter avec de dire aux gens qu'ils vivent une expérience quand ils font les achats.
Oui, parce qu'en plus c'est vrai que l'expérience est le nouveau terme à la mode. Toutes les marques veulent faire vivre des expériences à leur communauté, etc.
Quand utilisateur, la communauté, donner le sentiment...
Qu'on fait partie d'un truc,
ça c'est tout l'objet du marketing.
C'est ça.
Tu mets une marque Nike et puis tu as un symbole et derrière tu sais que tu vas surpasser parce que tu auras mis un pull Nike. Aujourd'hui, les gens, peut-être qu'ils se rendent compte de plus en plus que on les prend pour des cons et que l'expérience, c'est pas d'acheter un truc pour avoir le sentiment de faire partie d'une communauté, c'est de faire partie d'une vraie communauté et de vivre un truc avec des gens en fait. Mmh. Et les gens le sentent parce qu'en fait les gens dépriment de plus en plus et ils en ont besoin en fait. Mmh. Et en fait c'est même plus un truc de bobo, enfin, pour moi, c'est qu'en fait avec les problèmes environnementaux, avec les problèmes de précarisation de l'emploi, les gens ont besoin de se tourner vers les autres pour être plus forts.
Oui, ouais. Mmh. Ouais, donc on en revient à ce que tu disais, nécessité.
Nécessité.
Nécessité maintenant.
Et plus ça va aller, plus dans en 2050, si on se projette de là-bas.
Bah oui, justement, allons-y en 2050.
Allons-y.
Ouais.
Eh bien, si on prend de maintenant à 2050, en fait, les choses vont être de plus en plus graves et de plus en plus catastrophiques, aussi bien sur le plan climatique que social qu'en économique. Et donc, en réponse à ça, soit on s'écrase et c'est l'implosion totale, soit on organise des micro-choses. Et moi, je crois vachement au local. On peut organiser au niveau local, et c'est le meilleur laboratoire. Et en fait, plus c'est comme des alvéoles d'une ruche d'abeilles, plus il y en a, plus ça tisse quelque chose de fort et la ruche fonctionne quoi. Mmh. Et bien en 2050, il y aura peut-être plein de petites alvéoles qui seront organisées localement autour de une AMAP ou un supermarché coopératif comme la Louvre, il y en aura plein. On emploiera les gens localement, on fera circuler l'argent localement avec les monnaies locales, qui permettra de ne pas faire fuir l'argent et d'être plus responsable par rapport à ce qu'on achète, ce qu'on produit. On fera peut-être plus de courses en circuit court dans une ferme. On organisera des choses pour que en fait, tout se passe localement et qu'en fait les gens aient des prises et conscience et une prise sur ce qui se passe. Et du coup, les gens seront plus conscients et comme on dit empowerés, donc ils auront un pouvoir d'agir plus fort. Et en 2050, moi ce que je souhaite, mon utopie à moi, c'est que les citoyens aient pris le pouvoir sur l'économie, sur le social, sur l'environnement et sur ce qu'ils veulent faire en fait. Parce qu'en fait, tous les jours, on leur dit à la télé, surtout, et dans le métro et dans toutes les pubs, ne faites rien, on s'occupe de tout. Mais qui on? C'est qui vous? et si on leur disait plutôt, faites tout, occupez-vous de tout.
Ouais. Alors, mais ce on, justement, celui qui s'occupe de tout aujourd'hui, ils vont se battre contre cette transition positive que tu présentes, que ce soit les multinationales agroalimentaires, parce qu'on a pas mal parlé de consommation d'alimentation, sont des puissances qui aujourd'hui, voilà, toutes ces boîtes sont cotées en bourse. Est-ce que dans ta transition, tu vois un temps de rupture et qu'en 2050, finalement, le cours de la bourse n'existe plus, justement, toute l'économie soit hyper localisée, qu'on soit arrivé à un niveau de décentralisation extrême, ce qui pourrait être extrême, en tout cas, encore plus important, qui fait que le village n'est pas que géographie, il est social et que tout se passe là.
Moi, je pense que le ressort principal, c'est l'information. Je pense que les gens, ils doivent être informés et conscients de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, parce qu'en fait, le jour où les multinationales n'auront plus de prise sur des citoyens qui sont éclairés et qui sont conscients de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire et qui savent que acheter Monsanto, c'est détruire son sol, quand tu es un agriculteur et que tu passes ton temps à labourer seul dans ton champ, et que tu es seul, et que tu laboures avec des produits toxiques et que le labourage, tu sais que ça détruit ton sol et qu'au bout de 10 ans, tu n'auras plus de sol. Mais que du coup, dans le même temps, bah, c'était informé que tu peux faire autrement en fait, parce que tu croyais que c'était utopique, mais qu'en fait, c'est l'utopie, c'est ce qu'ils nous vendent depuis des années, parce qu'en fait, c'est une utopie mortifère. Et bien, si on a, je peux prendre d'autres exemples, mais si on a tous ces consciences-là qui s'élèvent et qui soient en fait juste outillées, je pense que le capitalisme classique, tel qu'on le voit aujourd'hui et qui est en train de tout détruire, n'aura plus de prise. Donc, alors moi, par contre, je suis un peu, pas pessimiste, mais réaliste. Je sais que le capitalisme a une force d'adaptation et de frappe plus forte que tout ce qu'on veut et qu'il est capable de s'adapter. Donc, il est capable de créer aussi des petites structures qui vont faire du local, du machin, etc. Mais tant mieux, si jamais vraiment ça va dans le bon sens et que ils arrivent à faire leurs activités de manière lucrative, mais avec du bon sens, déjà, on aura gagné.
Pas, ouais.
Mais je pense qu'en 2050, on aura une biodiversité entrepreneuriale, d'initiatives, beaucoup plus riche que maintenant, où aujourd'hui, c'est le modèle dominant qui écrase tout, et puis le modèle des citoyens et économie solidaire qui est trop minoritaire et qui devient aujourd'hui de plus en plus prisé.
Alors justement, ça me fait penser à ça. J'ai ramené un objet, en tout cas un magazine, le magazine Social Terre, je pense que forcément tu le connais,
ouais.
Qui est aujourd'hui, alors je ne sais pas combien d'exemplaires c'est édité, mais ça reste, je pense, encore un média qui a une vraie ligne éditoriale, Social Terre, autour de tout ce qui est innovation sociale.
Ouais.
Est-ce qu'en 2050, lire ça, ça sera finalement quelque chose de totalement banal et pas réservé peut-être à des gens comme toi ou comme moi qui nous intéressons justement à toutes ces dynamiques de transition, de créativité. Et d'ailleurs, le titre, là, c'était celui de juin-juillet de cette année, « Les rebelles créatifs ». Cette transition, elle va être portée par ces rebelles créatifs.
Ouais. Écoute, il y en a d'autres des magazines comme ça. Il y a Oui Demain.
Oui Demain, en effet.
Notamment. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est aussi que moi, j'ai été responsable communication. Donc, c'est marrant quand je le fais. Je vois plein de gens que je connais.
Oui, moi, j'ai vu Gaël Musquet. Ouais, Gaël Musquet. Je devrais faire un épisode avec lui, d'ailleurs.
Ouais, il est super sympa. Il est génial, ce mec. Il permet à des ONG. Il met la technologie au service des ONG.
Exactement, ouais.
Et les changements climatiques, etc. Oui, donc moi, en tant que responsable com, parce que je me suis frotté pas mal aux journalistes, et eux, ce qu'ils cherchent, en fait, majoritairement, le journalisme, c'est parlons des mauvaises nouvelles, ça va faire vendre. Donc, tu peux avoir des dépêches AFP sur un mec qui s'est coupé le petit doigt dans sa cuisine, c'est du moment que ça dit, les gens lisent. Par contre, tu n'auras pas les bonnes nouvelles parce que personne ne va allumer sa télé pour les bonnes nouvelles. Ça, c'est l'idée que se font les journalistes. Donc moi, j'étais chargé en tant que responsable com d'une structure de l'ESS de faire passer des bonnes nouvelles. Donc ça ne mordait pas, quoi.
Ouais.
Donc ce que je me suis dit, c'est en fait, ils ne se rendent pas compte que le monde est en train de s'effondrer, etc. Et que l'économie sociale et solidaire, c'est assez spectaculaire. Parce qu'en fait, c'est ce que recherchent les journalistes. Que ce soit spectaculaire, il faut des success stories. Et du coup, je leur vendais du spectaculaire. Vous vous rendez compte, cette personne était à la rue.
En fait, il
faut faire le storytelling de l'ESS.
Des acteurs.
Et en fait, il y a des pépites dans l'ESS qui sont énormes. Mmh. Quand on écoute les gens, c'est tous des gens hallucinants parce qu'en fait, ils ont fait un chemin dans leur tête.
Et puis en plus, un chemin dans leur tête et aussi dans leur parcours de vie qui sont souvent assez étonnants.
Ouais, c'est très philosophique. Et puis, il y a des gens qui voulaient plus être schizophrènes en fabriquant des travailleurs pauvres d'un côté, en étant RH d'une boîte qui virait les gens ou qui faisait de l'intérim, enfin du CDD à tire-larigot, et puis travailler au Secours Populaire de l'autre côté, par exemple. Et c'est de la mise en cohérence, beaucoup de choses. Tout ça pour dire que je pense que ces journalistes-là, plus ça va, plus ils comprennent en fait qu'il y a des choses à raconter, qu'on a besoin de ces choses-là en fait, et que les gens sont en attente de ça. Et c'est comme tout, hein, en fait, hein, faut que le client, la consommation, le consommateur de journaux, de nouvelles, ait envie de ça.
Ouais.
Et l'opinion, plus ça va, puis on voit des sondages qui disent, les gens sont en attente que les entreprises s'engagent, les gens sont en attente que les choses changent, en fait, et quand on voit changer le monde, on le voit partout, quoi.
Ouais.
Et donc, les journalistes vont progressivement aller sûrement vers ça et raconter ce qui fonctionne, ce qui fait du bien, ce qui voilà, parce qu'il y a trop de misère, il y a trop de précarité, etc. Donc ce magazine-là, aujourd'hui, il est réservé à des gens qui sont dans le milieu, mais pas que, en fait, parce que je vois des gens qui s'y intéressent, et je pense que ça contribue en fait à diffuser ces initiatives dont on parle depuis tout à l'heure.
Donc avant le 2050 que tu as décrit, je ouais. regarde cette image de ces petites alvéoles ouais. là, comme dans une ruche.
Ouais.
Il nous faut encore ces journalistes et ces journaux, ces médias militants. Je pense aussi à Terra Echo qui était un super ouais. magazine.
Et qui va renaître de ses cendres d'ailleurs.
Ouais, alors ça va repartir bah parce ouais, que les dernières crois, nouvelles, ouais. ils ont fait un gros crowdfunding.
Ouais, et ça n'a pas marché.
Ça a marché auprès du public, mais au niveau, il fallait aussi des investisseurs, je ouais. crois. Bon, bref, c'était un peu en sommeil, donc là, d'accord. ça repartira, j'espère.
Ouais, moi aussi. Et puis, j'espère qu'en fait, moi, mon rêve, c'est de voir des articles du Nouvel Économiste ou Les Échos qui parlent de l'économie sociale et solidaire comme une vraie économie.
Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, les gens ont oublié, les économistes ont oublié, et moi, j'écoutais des émissions même sur France Culture, le cercle des économistes, où ils parlent de l'économie sociale et solidaire comme quelque chose de sympathique, marginal, ouais, encore, mm-hmm. et que c'est pas une vraie économie.
Ouais.
Alors qu'en fait, l'économie, si on revient aux origines des choses, c'est comment on gère la maison.
Mm-hmm.
Et comment on gère, en fait, comment on gère, tout a un coût identifiable, en fait.
Mm-hmm.
Donc, même le bénévolat, ça fait partie de l'économie, même
ouais.
si c'est. Et aujourd'hui, on a oublié aussi que l'économie, c'est beaucoup plus large que le PIB. Et donc, on a des indicateurs de richesse qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité économique. Donc, on marche sur la tête complètement. Et donc, demain, les échos devront traiter l'économie sociale et solidaire, qui fait quand même 10% du PIB
ouais,
et
10% bien.
De l'emploi. Mmh. Alors, il y a des gens qui se lèvent contre ça parce que là-dedans, mais le groupe Leclerc qui
oui,
est pas,
voilà,
par exemple.
Les banques, ouais, voilà. certaines grandes banques. Mais bon.
Mais bon, il y a quand même un certain poids, donc c'est ouais. plutôt entre 6 et 6% d'après Philippe Rémaud, qui est le rédacteur en chef d'Alternative économique, qui fait partie de l'économie
oui,
sociale
voilà,
et solidaire d'ailleurs.
C'est bien de le citer, comme ouais. tu as vu qu'on a cité plusieurs
ouais.
magazines. Et donc en 2050, dans ce que tu vois, l'ESS finalement, ça sera l'économie la plus banale qui soit.
Ça sera, moi je pense que ça devra faire partie en tout cas des solutions.
Mm-hmm.
Alors je suis pas du tout, moi je suis pas un ayatollah ou un fasciste de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'il faut pas dire c'est la solution, faut faire ça.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait on a besoin, comme je disais tout à l'heure, de biodiversité.
Ouais.
Et biodiversité aussi dans les manières de concevoir l'économie. Il y a des gens, ils ont pas le ressort social, ils ont pas du tout. Et ils n'ont rien à faire dans l'économie sociale et solidaire, et tant mieux, et ils doivent créer des emplois. Et je pense que dans le tissu productif français, la majorité, c'est des PME. Et c'est les valeurs, en tout cas les manières de faire aussi des PME, sont très proches de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est des gens qui veulent que leur boîte marche,
ouais.
ils n'ont pas intérêt à la revendre.
Qui vendent de la qualité, un savoir-faire.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité dans le modèle économique de l'économie sociale et solidaire, où on va essayer d'ancrer localement les choses, parce que quand on fait une coopérative sur un territoire, ou quand on fait un pôle territorial de coopération économique, les PTCE, je trouve ça super intéressant, on va mettre ensemble des gens qui sont à la rue, parce que les fonds de pension américains ont décidé que c'était pas assez rentable cette activité, et bien on va dire, bah, en fait c'est rentable, pas assez rentable, on s'en fout, en fait mm-hmm. que ça soit juste rentable, et donc on va agréger des gens qui ont des compétences qui ont été mis à la retraite, on leur dit bah, vous ne servez plus à rien, sauf qu'en fait c'est des artisans de la chaussure par exemple, qui peuvent recréer une activité, une banque, on va les voir en disant on veut créer une activité, prêtez-nous de l'argent, la collectivité, portez-vous caution de cette activité-là. Créer une coopérative en fait, en agrégeant comme un cluster différentes activités,
ouais.
et on va recréer de l'activité sous un mode coopératif, donc de l'économie sociale. Il y a d'autres initiatives comme ça, comme Juratrie en Franche-Comté, où ils se sont dit, en fait, nous, on se rend compte qu'on veut insérer des gens dans l'emploi, parce que c'est notre boulot, on fait du recyclage de matériaux, et on veut, et donc ça marche très bien, c'est une grosse boîte maintenant, plusieurs salariés, enfin beaucoup de salariés, je ne sais pas exactement le nombre, mais plusieurs centaines, je crois. Et c'est dit, mais en fait, on est en train d'insérer les gens, mais où ? Puisqu'il n'y a plus d'emploi sur le territoire.
Ouais.
Donc c'est dit, en fait, on va recréer de l'emploi, on va recréer des filières, et donc ils se chargent en fait de la résistance, ils se chargent, ils bougent les fesses, quoi, et puis ils y vont. Et donc personne ne le fait à part eux.
Ouais, d'accord. Donc je garde trois images. La ruche,
ouais.
La biodiversité appliquée à l'économie, et puis cette idée de, du territoire. Voilà.
Ouais.
C'est trois mots forts pour décrire ce monde en 2050.
Ouais.
Alors, le moment est venu du vœu.
Ouais.
Du vœu. Tu conclus chaque conversation, Rudy. Alors, quel sera ton vœu? Tu nous as parlé de tes utopies, de tes souhaits, mais
ouais.
il reste à formuler un vœu.
Il reste à formuler un vœu. D'accord. Avec un peu de cohérence. moi, je souhaite... Pour 2050,
ouais,
hein, c'est
pour
ça.
Pour 2050.
Moi, je souhaite qu'en 2050... les citoyens soient libres de faire ce qu'ils souhaitent faire. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils souhaitent faire et qu'ils soient soucieux d'être heureux, en fait. Et je pense que, logiquement, l'économie sociale et solidaire fera sa place.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à toi, Rebecca.
Cette conversation et ce vœu. Merci à toi, Sébastien.
Mais dites-moi, j'ai la sensation que vous tremblez, là, à m'écouter. Alors, pour prolonger l'effet de ce shoot de futur, je vous invite toute la semaine à lire des revues comme Uzbek Erika, Oui Demain, Up le Max, Social Terre. Ça vous fera vraiment du bien. Et je vous rassure, pas de manque possible, je reviens dès la semaine prochaine. D'ici là, vous allez sur iTunes, vous me laissez des avis, des étoiles, une pluie d'étoiles même, et puis vous vous abonnez aussi sur SoundCloud et Deezer, vous partagez, bref, rendons cette communauté du futur de plus en plus importante, semaine après semaine. Je vous dis à très très vite, et d'ici là, soyons toujours curieux.